L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 mars. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, je suis en direct à Château-Gontier, il fait même plus beau qu'à Laval, je crois que je vais rester ici en fait finalement.
Eh ben voilà, allez parfait, hop, une castro-gontérienne en plus, on prend. On va parler alors aujourd'hui pas forcément d'un combat peut-être hypothétique qu'on est en train de ressusciter Château-Gontier-Laval, mais d'une formation psychosociale pour les professionnels qui est proposée par la Ligue de l'enseignement à Laval, justement, pour les professionnels, inscription jusqu'à la fin du mois. Vous entendrez un petit peu quel est l'intérêt de cette formation. Une interview qui a été faite par toi, Claire, sur Mayenne Nature Environnement.
C'est ça, et les sorties nature qui se passent le week-end, avec plein de sorties en extérieur, donc c'est un peu le moment d'en profiter, là, maintenant qu'il fait beau.
Exactement, prendre un bon bol d'air, prendre aussi un bon bol d'air avec de la culture et les spectacles qui sont maintenus seulement dans les écoles et dans les collégiennes. Nous avons justement suivi un spectacle qui a été proposé la semaine dernière ici à Château-Gontier et interrogé les comédiennes, ce sera notre feuilleton de cette semaine.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Ils étaient plusieurs centaines à manifester pour la culture ce week-end.
À Laval, 300 personnes se sont réunies samedi midi devant le théâtre pour demander la réouverture des lieux culturels et la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Des rassemblements ont eu lieu aussi un peu plus tôt dans la matinée à Château-Gontier avec 70 personnes et à Mayenne où la mobilisation a pris la forme d'un concert sans musique.
En Mayenne, le centre d'appel pour la vaccination allonge ses horaires.
Vous pourrez désormais appeler la plateforme téléphonique jusqu'à 20h pour prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Toujours au même numéro, le 02 43 53 53 00. Le conseil départemental dit chercher de nouveaux bénévoles pour assurer ces créneaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur lamayenne.fr.
Flambée des chiffres de la Covid-19 ces derniers jours en Mayenne.
On compte désormais 188,3 cas pour 100 000 habitants et 6,5% des tests sont positifs. Près de 41 500 Mayennais ont reçu au moins une première injection du vaccin.
Pas de livraison de repas via Uber Eats hier soir.
Les livreurs de la plateforme étaient en grève à Laval hier de 17h à 21h. À vélo, ils vous apportent les plats commandés dans les restaurants de votre ville. Ces livreurs dénoncent un remboursement des kilomètres qui ne serait pas respecté, le manque de rentabilité de certaines opérations commerciales ou encore l'absence de bonus. C'est leur deuxième dimanche de mobilisation après avoir fait grève déjà le 14 mars dernier.
Les aides à l'embauche des jeunes prolongées.
Annonce du Premier ministre Jean Castex la semaine dernière, toutes les aides proposées dans le cadre du plan Un jeune, une solution sont prolongées, et notamment l'aide de 5 000 euros pour l'embauche d'un apprenti mineur et 8 000 euros pour un apprenti majeur pour la première année. La prime à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD de plus de 3 mois est elle aussi prolongée jusqu'au 31 mai, mais la prime est recentrée sur les salaires inférieurs ou égaux à 1,6 SMIC. En Mayenne, plus de 700 primes de ce type et plus de 2000 primes à l'apprentissage ont été versées.
À l'occasion de la Journée internationale de l'eau, les pompiers s'engagent avec le CPIE.
Le Centre permanent d'initiative pour l'environnement de la Mayenne vient d'officialiser son partenariat avec le SDIS 53, le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne. L'objectif, intégrer le développement de la biodiversité des plans d'eau utilisés comme réserve à incendie.
Les illustrations de Delphine Vaught à découvrir à la Maison Bleue à Cran.
Une nouvelle exposition Corona compatible, visible depuis la rue et jusqu'au 17 avril. Delphine Vaught dessine aussi bien sur une toile, sur de la porcelaine, une plaque de métal ou du papier. Très inspirée par la nature, ses œuvres sont visibles à la Maison Bleue et vous pouvez prolonger votre parcours par 5 expositions installées dans des vitrines vides de Cran par l'association Octopus.
Descendues de leur beffroi, les cloches de l'église d'Azay sont en exposition.
De leurs petits noms Anne, Louise, Françoise et Marie-Alexandrine, elles sont ainsi admirées non loin de l'autel dans l'église. La troisième cloche est partie en restauration en Autriche. À voir tous les jours donc jusqu'au mois de juin à l'église Saint-Saturnin de 10h à 18h, avec en parallèle des panneaux relatant l'histoire de ces cloches et les métiers qui y sont associés.
Et Marie, une nouvelle formation pour les professionnels de l'enfance et de l'adolescence.
Elle est lancée à Laval par la Ligue de l'enseignement de la Mayenne. Au programme, 9 jours de formation pour le développement des compétences psychosociales, étalées entre le mois d'avril 2021 et mars 2022. Laetitia Audinet est chargée de mission éducation, formation, culture à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne. Elle définit pour commencer ce que sont ces fameuses compétences psychosociales.
ce sont comme des outils en fait qu'on va acquérir, alors plutôt dans la petite enfance, mais ça peut être aussi tout au long de la vie. Et ce sont des choses qu'on va mobiliser dans notre quotidien, dans notre contexte familial, professionnel, amical. Donc, je peux vous en citer quelques-unes parce qu'il y a des catégories. C'est par exemple le fait d'être en mesure de ressentir de l'empathie pour les autres, de développer une confiance en soi, apprendre à résoudre des problèmes quand on est confronté à quelque chose, avoir une pensée créative, etc. Donc, c'est une boîte à outils qu'on développe, qu'on acquiert tout le long de la vie et qui nous sert pour notre vie de tous les jours. Alors, cette formation-là, elle est destinée au public, en fait, professionnel, qui œuvre dans le secteur socio-éducatif, le secteur de l'éducation, de l'information, les travailleurs sociaux qui œuvrent, en fait, dans le champ des politiques éducatives. Alors, qui peuvent être axés sur le public petite enfance, enfance ou adolescence. Ça peut être aussi des personnes qui interviennent dans le milieu scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Ça peut être aussi des enseignants ou même des professionnels de la santé. Donc on est vraiment sur un panel assez large, mais c'est vraiment destiné aux professionnels pour vraiment soit découvrir, analyser les compétences psychosociales ou renforcer son savoir-faire autour de ces notions-là. On a trois intervenants qui vont participer. On a donc Christophe Moreau, qui est un sociologue, et Sotiria Amarantos, qui travaille dans un cabinet qui s'appelle Jeux des Vies. Et puis, ils vont aussi regarder tout ce qui concerne la communication interpersonnelle, la connaissance de soi, l'empathie, etc. Ensuite, on aura une intervenante, Carole Landel, de l'IFMAN, qui, elle, va plutôt être sur le volet petite enfance et enfance, et par exemple sur la notion de l'accompagnement des émotions à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on connaît en fait des réactions des enfants? Qu'est-ce qu'on connaît de leur développement à cette période de leur existence en fait? Qui explique qu'on peut être confronté à des réactions de leur part? Voilà comment on analyse tout ça. Il est construit pour être en cohérence, que les différents modules se complètent, que les participants puissent aussi faire remonter en fait des choses du terrain, infuser aussi. Bon, c'est pour ça aussi qu'il y a un rythme qui est échelonné sur une dizaine de mois, avec des rendez-vous réguliers, du coup une fois par mois quasiment, avec le même groupe constitué, ça c'est important aussi.
Et des soirées sur le même thème devraient être proposées au grand public avec différents intervenants en visio. Et des ateliers sont prévus dans les centres sociaux partenaires. Pour la formation, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire par mail à laetitia.audinet@laligue53.org. On en a parlé en tout début d'émission, évidemment Mayenne Nature Environnement, qui aura repris depuis déjà quelques mois ses sorties mensuelles. On en parle d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Groovy Babe de Duran Johnson, The Indications. We'll be right back. C'était Groovy Babe sur l'autre radio. Vous êtes toujours à l'écoute de l'AJT du local. Et vous le savez, en ce moment, avec le contexte sanitaire, compliqué de réaliser des activités en famille.
Heureusement, l'association Mayenne Nature Environnement nous propose des sorties nature. C'est Lionel Herriot, chargé de communication, qui nous explique le rôle de l'association et ses activités.
Mayenne Nature Environnement est une association. Donc, qui est indépendante, qui a été créée dans les années 80. Et donc, les principaux objectifs donc, de cette association, c'est de sensibiliser, de conseiller, puisqu'on a une activité de conseil avec des salariés, d'informer, bien entendu, sur toutes les activités et tout ce qu'il peut y avoir autour de l'environnement et de la biodiversité, de protéger la biodiversité et l'environnement en Mayenne, et surtout aussi d'éduquer. D'éduquer auprès des plus jeunes.
C'est ça, parce qu'on pense protection de l'environnement, mais vous faites aussi beaucoup d'actions sociales.
Oui, alors des actions sociales, mais c'est surtout des actions qui sont effectivement sur des publics qui sont ciblés, comme les jeunes publics, mais aussi les groupes constitués, donc autour des problématiques de l'environnement, autant que ça soit possible donc, d'intervenir auprès de ces groupes, donc effectivement pour les conseiller et protéger avec eux donc, la biodiversité. Alors ça peut être sur un endroit très précis, une commune, une action très très, très, très locale, hein, à la fois sur la sauvegarde de la faune et de la flore.
C'était important pour l'association justement cet aspect local et d'intégrer justement la population dans cette protection de l'environnement ?
Oui, parce qu'au plus on éduque, au plus on conseille, au plus on aide les personnes donc, à être sensibles à leur environnement, et aussi à gérer par elle-même donc, cet environnement. Un beau projet qui dure maintenant depuis 2006, qui a été mis en place et qui est mis en place aussi avec les écoles, que l'on appelle, nous, Sur les chemins de la nature. Hein, donc, Sur les chemins de la nature, c'est une idée, comme c'est rendre la nature ordinaire accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire c'est découvrir dans chaque commune. Notre rêve, ça serait ça, c'est d'avoir un chemin de la nature dans chaque commune, donc qui permet donc à la fois aux écoles, donc mais aussi aux groupes constitués, donc de découvrir par ce chemin, donc de découvrir les espèces, la faune, la flore, et ainsi aussi la préserver et la protéger. C'est-à-dire qu'un chemin derrière tout ça, donc il y a un label qui est délivré par MNE. Hein, il y a une personne chez nous qui va aller donc sur une fréquence assez régulière, donc aller voir les chemins, inspecter, voir si ça s'est amélioré, si ça ne se détériore pas, etc., etc., de façon à reconduire la labellisation d'une fois sur l'autre. Et donc là, on a à la fois donc un modèle de biodiversité qui s'installe dans une commune. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est mis en place autant que cela soit possible, donc avec les plus jeunes acteurs, c'est-à-dire les enfants. Il y a un autre label aussi qui est porté là par une personne bénévole, c'est de dire à chacun, vous avez un balcon, vous avez une maison avec un petit terrain, vous avez même un plus grand terrain, eh bien, vous pouvez être refuge LPO. Hein. Donc être refuge LPO, c'est tout simplement prendre conscience que dans mon terrain, dans mon espace, eh bien, je n'y vis pas tout seul, j'y vis aussi avec la faune et la flore, et celle-ci, je dois la respecter. Alors, c'est une petite charte qui n'est pas forcément contraignante, mais qui permet de prendre conscience, de se dire, je ne vis pas là tout seul, mais je vis aussi avec des oiseaux, je vis peut-être avec des chevreuils, je vis avec le hérisson, l'écureuil, etc., etc. Ça permet aussi de faire participer toutes les personnes qui sont acteurs de la collectivité, par exemple, ou toutes les personnes qui sont acteurs aussi dans l'entreprise. Quand on est dans une entreprise, certes, on y vient pour travailler, mais pas que. On y vient aussi parce que c'est un environnement et qu'à un moment donné, si on veut qu'il soit durable, il faut aussi le respecter. Et donc ça, ces démarches-là contribuent aussi à mettre autour de la table eh bien, autant de personnes qui sont sensibles et intéressées par le sujet. Hein, et c'est ça qui est aussi important. Hein. Par exemple, je prends juste un exemple, puisque c'est quelque chose quand même qui est très, très sensible en Mayenne, c'est le bocage mayennais. Le bocage mayennais, c'est quand même une particularité. Et quand on voit donc toutes ces haies qui sont détruites pour faire une certaine agriculture, en fait, c'est bien aussi que des citoyens en prennent conscience et donc souhaitent, avec l'aide des experts de MNE, donc puissent remettre à niveau les haies, refaire des linéaires de haies, etc., pour que le bocage redevienne en fait ce qu'il était à un moment donné.
Comment justement ça se passe, la communication avec les agriculteurs, quand on est une association de protection de l'environnement ?
Le dialogue, il faut qu'il soit là. À partir du moment où il n'y a pas de dialogue, il y a de l'affrontement. Et l'affrontement, on sait très bien qu'à un moment donné, ça n'a jamais fait avancer les choses. Donc le dialogue, c'est ce qui permet, comme on le dit souvent, hein, c'est ce qu'il faut, c'est de travailler les uns avec les autres, de façon à ce que ce qui en ressort, c'est des choses positives pour la biodiversité. Et à partir du moment où on n'a pas décidé de travailler les uns avec les autres, eh bien, on voit bien souvent que les choses n'avancent pas, ou si elles avancent, elles n'avancent pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Donc, effectivement, tout le monde est capable, à un moment donné, de se mettre autour de la table pour écouter l'autre, et de faire en sorte de mettre en place les bonnes actions qui vont bien pour l'environnement, la biodiversité.
Je voyais sur votre site, en plus de la MNE, que tous les bénévoles ont chacun une caractéristique, quelque chose à apporter à l'association. C'est justement autour de ça que l'association est, de partager toutes vos connaissances, vos valeurs.
Bien sûr, il y a des gens qui sont sensibles donc à tout ce qui est tout le côté botanique, donc la flore. Il y en a d'autres, donc c'est par exemple les chauves-souris. On a un groupe par exemple qui est très actif sur les chauves-souris, un groupe qui est très actif aussi en ornitho, donc tout ce qui concerne les oiseaux. On a aussi un groupe, donc là on est plus sur la nature extraterrestre, on va dire, mais sur l'astronomie, hein, puisque observer, contempler les étoiles, c'est aussi observer la nature, hein, et de faire en sorte, là je veux juste faire un petit clin d'œil par rapport à l'environnement et l'astronomie. Par exemple, quand vous avez des villes où vous avez des lumières la nuit, qui éclaire le ciel, eh bien en fait on ne voit plus les étoiles, par exemple. Et donc ça aussi, c'est un combat à mener, de façon à ce que, d'une part, on puisse se réapproprier entre guillemets le ciel nocturne, et puis d'autre part, de faire prendre conscience que d'éclairer la nuit des rues où il n'y a personne, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si ça a du sens ou pas. Hein, donc voilà.
Encore plus en cette période, j'imagine, de confinement, couvre-feu, où on ne peut plus sortir, mais les rues restent allumées, les enseignes aussi.
Oui, bien entendu, c'est vrai qu'on peut aussi se poser ces questions-là, parce que laisser allumer, c'est quand même de l'électricité, hein, c'est de l'énergie qui, à un moment donné, pourrait être utilisée à autre chose. Et derrière tout ça, il faut la produire, cette énergie. Et la production d'énergie, c'est toujours quelque chose qui est non neutre sur l'environnement, hein, sur les milieux. Hein, c'est...
Et en parlant de confinement, couvre-feu, etc., ça a forcément impacté, j'imagine, le MNE. Association de protection de l'environnement, vous ne pouvez plus forcément sortir, aller sur le terrain. Comment ça s'est passé ?
Il y a toujours la possibilité donc, de faire des sorties pour les salariés et donc pour les bénévoles qui doivent, par exemple, faire des recensements, des comptages à des moments bien particuliers, etc., etc. Donc là, il y a toujours cette possibilité de le faire. Alors effectivement, les salariés de MNE sont comme dans toutes les entreprises, donc quand ils peuvent faire du télétravail, ils font du télétravail, mais ils ont aussi la possibilité donc de sortir pour faire tous les recensements, les études et toutes les missions qui leur sont confiées par les collectivités territoriales, notamment. Donc ça c'est quelque chose qui perdure et qui continue. Donc voilà, alors après, derrière ça, effectivement, il y a le couvre-feu. Alors, je prends juste un exemple. Par exemple, on devait faire au mois de février et même début mars la nuit de la chouette, comme on fait tous les ans. Bon, avec le public, celle-ci n'aura pas lieu cette année, puisque le couvre-feu nous interdit de sortir après 18h et que les rapaces nocturnes, en fait, c'est autour de 21h, entre 21h et 23h qu'on les entend le plus, en tous les cas.
Oui, eux, ils n'ont pas de couvre-feu, en fait.
Non, ils n'ont pas de couvre-feu, ils continuent à faire. Non, pas de couvre-feu. Non.
Donc, bon, il y a quelques événements annulés, mais vous avez quand même maintenu des sorties nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel va être le programme, à qui ça s'adresse aussi ?
Alors, les sorties nature, donc nous avons notre agenda donc, qui est sorti, donc qui est disponible. Hein, que l'on peut demander donc au niveau du secrétariat donc de MNE. Donc cet agenda donc reprend toutes les animations et qui s'adresse donc à tous les publics. Hein, il suffit de prendre l'agenda, de regarder effectivement toutes les animations qu'il y a toute l'année et de s'inscrire. Donc effectivement, il faut s'inscrire vite. Les animations qui sont prévues, là, seront assurées. Le 3 avril, à la découverte des tulipes, on a, et puis la découverte aussi des environnements, comme la réserve naturelle régionale du Mont des Avaloirs, où là, nous aurons une sortie le 17 avril, le samedi, où on pourra effectivement reconnaître au travers des paysages qui sont quand même assez magnifiques par là, donc de reconnaître les oiseaux qui sont dans les landes, et donc notamment les migrateurs qui commencent à arriver, ou qui seront déjà arrivés. Donc vous voyez que là c'est quand même diversifié, on a de la faune, de la flore, plein de choses à découvrir. Vous voyez, je vous parlais du bocage tout à l'heure, donc le patrimoine bocager autour de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, voilà encore une sortie très très intéressante hein, qui se fera le 17 avril, et il y en a plein d'autres.
Alors pour répondre aux questions un peu plus scientifiques, je suis avec Magali Perrin, la chargée de mission de l'association. Est-ce qu'on peut discuter un petit peu de ce qu'on a entendu dire, que le confinement a fait du bien à l'environnement et qu'on se dit qu'il y a moins de CO2 émis, moins de nuisances sonores? Est-ce que vous l'avez perçu, vous aussi, en Mayenne, avec le MNE?
Oui, effectivement, je pense qu'on a perçu certaines choses. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir analyser tous ces éléments. Mais il est évident que la diminution du trafic routier, par exemple, a forcément eu un impact sur toutes les collisions qu'on peut observer. Donc, tout un chacun le voit bien sur le bord des routes, les collisions avec les hérissons, par exemple, les collisions avec les oiseaux aussi. Sur certains sites de reproduction qui ont été beaucoup moins fréquentés au cours du confinement, les oiseaux ou les autres animaux y ont trouvé certainement une quiétude plus importante du fait qu'il y ait moins de circulation, moins d'échanges, que les journées étaient aussi beaucoup plus courtes pour l'activité humaine et laissaient une part beaucoup plus importante pour l'environnement et l'expression de la faune et potentiellement de la flore, puisqu'il y a plein de secteurs qui n'ont pas été fréquentés du tout non plus à cette période-là. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une analyse plus fine, puisque on n'a encore pas suffisamment de recul. Et puis, comme on était aussi confinés en même temps que les travailleurs, c'est vrai qu'on voilà, on a beaucoup de ressentis aujourd'hui, d'intuition, mais ça mérite d'être confirmé par l'analyse des observations qui sont faites, puisque du coup ça aura aussi une incidence. Il faut savoir que pendant le confinement, les gens se sont aussi tournés beaucoup plus vers leur nature ordinaire autour de chez eux, et pour le coup ont eu plus la possibilité d'observer ce qu'il y avait autour d'eux. Donc ça, on l'a perçu nous sur les bases de données participatives qu'on gère, avec beaucoup plus de participation, beaucoup plus d'espèces ordinaires qui sont entrées dans nos bases de données qu'on n'avait pas habituellement.
Comment ça se passe justement pour participer ?
En tapant www.faune-maine.org, vous pouvez vous inscrire. Donc ça, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières. C'est gratuit. Vous rentrez les données que vous êtes en capacité d'identifier, donc principalement la faune. Ça peut être le rouge-gorge, ça peut être le moineau, ça peut être le pigeon, ça peut être le renard. Et l'idée, c'est qu'on ait une meilleure couverture à l'échelle du département de toutes les observations qui peuvent être faites. Et à partir d'un certain nombre de données, vous pouvez aussi, à votre échelle, voir ce qui se passe sur votre commune, savoir si l'oiseau que vous avez observé est très répandu à votre petite échelle ou pas, ou pour d'autres espèces, où est-ce qu'on peut éventuellement aller les observer de manière privilégiée. On a des vérificateurs qui sont aussi en analyse de savoir si toutes les observations qui sont remontées sont des observations fiables, puisque la finalité de cette base de données, c'est de pouvoir faire sortir des atlas. Donc ça a été le cas il y a 2 ans pour l'Atlas des papillons, quand on estime avoir une couverture suffisante pour un groupe d'espèces à l'échelle du département, on essaye de valoriser l'ensemble de ces données par la transmission d'un atlas, l'édition d'un atlas. Donc c'est un peu la finalité. Maintenant, voilà, ça demande à être analysé aussi. Et là, c'est encore un petit peu tôt.
Ça veut dire quand même qu'on participe et qu'on voit le fruit de notre participation avec un vrai rendu,
c'est
avec
ça.
Un atlas.
C'est l'objectif. Et là, il y a eu d'autant plus de participation que dernièrement, il y a une application qui est accessible sur téléphone maintenant pour la saisie des données. Donc c'est vrai que c'est le téléphone se généralisant. Il y a une application qui facilite la saisie et qui géolocalise la donnée à l'endroit où vous saisissez, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Il y a la possibilité de mettre des photos. Donc effectivement, ça a aussi cette vocation de formation, la base de données. Vous pouvez tout à fait faire une identification, poster la photo, et derrière, les vérificateurs vous renverront un message si jamais vous vous êtes trompé. Et sinon, on considère que la donnée est validée.
On peut télécharger l'application Naturaliste, sans E à l'anglaise, ou aller sur le site faune-maine.org. Pour la prochaine sortie nature, ce n'est autre que samedi 3 avril à la découverte des tulipes, et il faut s'inscrire au 02 43 02 97 56.
Très bien, c'est bien noté, Claire. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps justement de noter ce numéro, vous pourrez réécouter l'émission en podcast dès cet après-midi. Merci beaucoup. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Clay and Friends avec leur morceau Romeo.
J'ai voulu être Roméo, j'ai mélangé Roméa. Je connais pas les bonnes personnes, personne ne te connaîtra. Choisis bien tous tes amis, même s'ils ne sont pas là. Tout ce que je sais, mon nom, je l'ai su beaucoup trop tard. Toujours je serai fantôme, j'aime mieux être sous les draps. Mon nom reste sur le chèque, même si vous ne savez pas. I'm living my world. Oh, oh. Je voulais être somebody, mais je suis devenu personne. Que je le sorte de ma tête. Je voulais être somebody, mais je suis devenu personne. Il faut que je le sorte.
Toujours à l'écoute de l'agité du local. Nous sommes lundi et lundi, on commence la semaine par un conseil lecture des libraires d'Emily Ranjou. Aujourd'hui, celui de Christophe.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Voilà le premier tome d'une bande dessinée. On va pas forcément dire roman graphique, bande dessinée, signée Leïla Slimani et Clément Oubrerie. Alors Clément Oubrerie est lui au crayon et aux couleurs. Et Leïla Slimani, elle, est au scénario. Alors vous la connaissez, Leïla Slimani, prix Goncourt, femme extrêmement influente dans le monde de la littérature comme dans la société. Leïla Slimani s'est beaucoup intéressée au portrait d'une femme. Eh bien, c'est celle qui va être racontée dans cette bande dessinée qui s'appelle « Aux mains nues » aux éditions Les Arènes. « Aux mains nues », c'est l'histoire de Suzanne Noël. Suzanne Noël, c'est une femme qui, au tout début du XXe siècle, va avoir l'ambition de faire des études de médecine. Imaginez-vous, à cette époque, c'est plutôt un milieu réservé pour les hommes. Eh bien, elle va travailler le soir très très dur, elle va passer ses examens et elle va franchir tous les échelons pour véritablement devenir médecin. Et elle va avoir une attention toute particulière auprès des femmes, mais aussi auprès de ces hommes qui, voilà le début de la guerre en 1914, vont revenir avec des gueules cassées. Et là, le destin de Suzanne Noël va être complètement entremêlé avec le destin aussi de ces hommes sans visage, puisqu'elle va s'intéresser à la chirurgie esthétique. Alors voilà, on retrouve le charme du dessin de Clément Houbrery, on retrouve la plume féministe, quelque peu militante, mais surtout humaine, de Leïla Slimani pour cette biographie qui est très, très, très intéressante. Je vous invite à découvrir ce personnage qu'est Suzanne Noël. Je vous rappelle, cette bande dessinée est donc de Leïla Slimani et Clément Houbrery. Ça s'appelle À main nue et c'est aux éditions des Arènes.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier ou et sur l'autre radio.
Et sur l'autreradio.fr. Et dès demain, mardi à 7h30, mettez votre réveil si vous ne voulez pas manquer cette nouvelle chronique. En tout cas, nouvelle semaine, vous le savez, donc nouveau feuilleton consacré au spectacle proposé à Château-Gontier la semaine dernière. Pas pour le grand public, bien sûr, mais pour les collégiens. Trois comédiennes de la compagnie du Kairos ont joué devant eux la pièce « J'ai trop d'amis ». Avant la représentation prévue au collège Paul-Émile Victor, Suzanne, Charlotte et Marion, les trois comédiennes, se sont confiées à notre micro et on commence par l'histoire de ce spectacle.
C'est la suite d'un spectacle qui s'appelle « J'ai trop peur » et qui continue aussi à tourner, qui est pour des adolescents, des collégiens. Des gens qui rentrent en sixième, voilà. Alors, en quelques mots, c'est un jeune garçon qui a très, très peur de rentrer au collège. Donc, dans « J'ai trop peur », le premier spectacle, on le suit toutes ses vacances, où il les rate complètement parce qu'il est tellement flippé qu'il se fait tout un monde de ce que va être sa nouvelle vie. Et dans le second volet, donc « J'ai trop d'amis » qu'on joue en ce moment à Château-Gontier, c'est ce même garçon qui passe ses premiers mois au collège et qui rencontre sa nouvelle classe, des nouveaux copains, des nouveaux problèmes et voilà.
Un monsieur qui a l'air important et qui doit être le directeur dit nos noms dans un micro qui ne marche pas très bien. J'ai l'impression que le temps se ralentit. J'entends mon cœur battre très fort dans ma poitrine.
Je crois qu'au départ, c'était juste une commande d'un théâtre pour David, parce qu'il avait auparavant écrit déjà un spectacle pour la jeunesse, mais pas vraiment pour cette tranche d'âge-là. Et je crois que le passage au collège est un sujet quand même important pour des jeunes gens. C'est vraiment comme un passage initiatique, en fait. Donc voilà, il a voulu commencer par écrire. Pour cette peur, en fait. Je crois qu'il a pris la peur de ce passage-là et puis il a continué avec le deuxième spectacle à dérouler l'histoire de ce petit garçon.
Il trouve que cette tranche d'âge au théâtre, il n'y avait pas grand-chose aussi, rien que pour eux. Donc quand on lui a proposé un jeune public, il n'avait pas envie de faire pour les tout-petits et il avait envie de faire pour cette préadolescence. Quelque chose qui parlait vraiment de leur timing à eux. Donc l'entrée en sixième, les questions que ça pose sur les rencontres qu'on va faire, les profs, grandir et tout ça. Et puis, effectivement, là, dans « J'ai trop d'amis », être en sixième, donc les nouveaux copains, la nouvelle classe, la popularité et des nouvelles problématiques, mais qui en fait sont des problématiques complètement ciblées en fait sur cet âge-là. Et lui, je crois qu'il a pris énormément de plaisir à se pencher sur cet âge-là précisément, avec le langage que ça peut amener, avec les corps que ça peut amener et l'humour que ça a aussi d'être entre des enfants et des jeunes adolescents et d'être encore complètement en quête de ce qu'on va devenir en plus grand, quoi. On se pose des questions qu'on ne se posait pas forcément avant. C'est le début d'un âge hyper philosophique, quoi.
Ah, comment je vais faire avec Marguerite, moi ? J'y connais rien ! J'ai même pas compris si on était ensemble ou pas.
La suite demain avec d'autres extraits de spectacles à découvrir. Et on va parler demain du réalisme des personnages. C'est l'heure de la rubrique Initiative avec toi Claire, et aujourd'hui une spéciale culture, on continue un peu sur le thème et on commence avec une exposition.
Et oui, à l'occasion du festival Habiter là, 4 artistes sont en résidence à Préampa et Saint-Sanson, Samantha Morin, plasticienne sonore, François et Georges Le Gonidec, deux frères artistes, et Guillaume Thirault, designer. La résidence cette année a pour thème les lieux communs. L'objectif, réaliser des œuvres uniques qui associent l'art et les habitants. Elles seront exposées dans des vitrines inoccupées à la place du Vieux Marché et dans la rue Aristide Briand, et c'est à découvrir jusqu'au 25 avril.
On continue, Claire, avec des concerts dans des lieux mythiques.
Et oui, des concerts, vous l'avez compris, virtuels, c'est ce que nous propose la scène de musique actuelle 6x4. Ils ont lancé une mini-série Sessions essentielles. Ce sont des capsules vidéo, des lives d'artistes dans des lieux historiques de Mayenne. Vous avez rendez-vous avec Mad Lenoir au très beau Théâtre de Mayenne, avec AM Love Poems et Alice A au Musée d'art naïf et d'art singulier de Laval. La prochaine session essentielle sort ce vendredi, et pour découvrir qui ce sera et écouter les anciennes sessions, rendez-vous sur leur site internet 6x4.com ou sur leur page Facebook et Twitter en tapant 6x4.
Merci beaucoup Claire, de toute façon c'est toujours mieux, hein, à défaut de pouvoir les voir en vrai, d'avoir au moins de pouvoir profiter de ces concerts de manière virtuelle. On parlait des réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Facebook, le nom du compte L'Autre Radio. Et toujours, vous pouvez en tout cas nous partager vos initiatives ou vos messages sur notre répondeur au 09 70 40 54 40. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde, c'est encore passé très très vite. On se retrouve demain.
Et on se retrouve demain évidemment toujours à 12h15, mais d'ici là vous allez pouvoir profiter à 19h de Solénoïde. À 20h ce sera la discothèque de notre programmateur Joël, suivi à 21h de l'émission Eldorado. Nous on se retrouve demain 12h15, on le rappelle pour pas que vous manquiez le rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.